Informer, comprendre, agir. Bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire pour la planète. C'est l'heure de la chronique environnementale avec Jean-Louis Caffier.
Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, chères auditrices et auditeurs de Studio 45. Soyez le bienvenu dans votre chronique environnementale. Et comme toujours, je suis en compagnie de Jean-Louis Caffier. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour, bonsoir. Bonsoir à tous.
Alors aujourd'hui, on va parler de climat et forcément, ce début décembre s'annonce très doux. On a vu qu'on dépasse les 20 degrés ici à Gien et à Briard notamment. Est-ce qu'on va y en avoir droit tous les ans ?
Oui, je pense que les climatologues sont à peu près calés là-dessus. C'est plus un phénomène exceptionnel, c'est un phénomène qui va revenir effectivement tous les automnes. Hiver. Alors, pour l'avenir, il y a des choses qui sont établies maintenant. On est sur un schéma de plus 1,5 degré, 2 degrés sur l'ensemble de la planète. Et ces températures très importantes impliquent des changements locaux très importants aussi. C'est en train de se confirmer. Et c'est vrai surtout dans la moitié nord de la France. On est là, ici, à Gien, dans une période qui est un peu charnière, sur la Loire. C'est très important, la Loire, hein, pour la diffusion des températures, des précipitations, de la météo en général. Et on a, depuis les premiers rapports du GIEC, une certitude, c'est que là où il pleut beaucoup, donc dans le nord de la France, il va pleuvoir encore plus, d'où les inondations auxquelles on a assisté dans le Pas-de-Calais, notamment, dans le nord, qui sont très récurrentes. Et il va faire un petit peu moins, plus sec, dans la partie sud. Nous, on est au milieu, pile poil sur la Loire, et donc bah, il va pleuvoir par moment, et puis avoir des sécheresses dans d'autres périodes, c'est ce qui est en train de se dessiner.
Mais est-ce que les climatologues ont étudié ce phénomène ? Qu'est-ce qu'on en sait de plus de tout ça ?
Oui, bah, le phénomène, il est connu, on appelle ça l'oscillation nord-atlantique, c'est-à-dire qu'on a des masses d'air qui se trimballent, qui sont portées par les vents en très haute altitude, hein, à 10-15 000 mètres, depuis le sol. Donc masse d'air froide qui nous vient de l'Arctique et masse d'air chaude qui nous vient des régions subtropicales. C'est ce qui se passe en ce moment. On a un fort apport des masses d'air subtropicales, ce qui explique les températures importantes, parce qu'on n'a pas tout à fait battu des records dans le sud de la France. En revanche, dans le nord, on n'a pas encore terminé l'automne. Et il est fort probable qu'on ait encore des records battus. Mais les records, on va les battre dans les années qui viennent sans arrêt, parce qu'il y a eu une forte réminiscence des vagues de chaleur. On a émis des gaz à effet de serre, notamment le CO2, le dioxyde de carbone, lié au gaz, charbon, pétrole, et le CO2, il reste dans l'atmosphère en moyenne une centaine d'années. Ça veut dire que là, on a une masse d'air depuis 150-200 ans qui est scotchée sur la planète et qui est augmentée en particulier avec l'utilisation encore aujourd'hui des énergies fossiles. C'est-à-dire qu'on a une masse d'air qui est là, qui est bloquée avec le dioxyde de carbone et on l'augmente chaque année. Et on imagine qu'il faudrait tout stopper pour que ce soit éventuellement évitable, mais c'est pas possible, quoi, bien sûr.
Et c'est vrai que par ailleurs aussi, il y a eu des travaux scientifiques, notamment sur la modélisation, les analyses de séries longues. Oui. Ils prédisent un seuil important, comme un réchauffement global durable de plus 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Ça peut se dépasser dans les décennies à venir. Mais on sait que 2025, forcément, n'a pas été non plus une année très chaude. Hein. Mais qu'est-ce que ça signifie ?
Ça a été une année chaude hein, quand même. Ça n'a pas été une année record.
Oui, ça n'a pas été une année record.
On est au niveau de 2023 et 2024. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir dans le détail qu'en 2003, année record, et pas de beaucoup hein, par rapport à 2025, on est sur l'épaisseur du trait, hein, si on veut. En 2023, on avait un phénomène El Niño qui était très important et qui a eu une grosse influence sur les températures. On rappelle qu'El Niño, c'est un phénomène météo sur une partie du Pacifique qui réchauffe l'eau de surface et qui provoque des désordres météo un peu partout et des hausses de température un peu partout aussi. Et en 2004 et 2025, on n'a pas eu ce phénomène El Niño. Les climatologues avaient prévu que El Niña, la petite sœur d'El Niño, qui, elle, refroidit l'atmosphère, serait bien là. Or, elle est arrivée, mais en très, très petite forme, la Niña, et du coup, les températures n'ont pas baissé, contrairement à ce qu'annonçaient les climatologues à l'époque, il y a 2-3 ans, et ils sont tous très surpris de voir qu'en dépit de l'absence du phénomène El Niño, les températures globales sont restées au même niveau qu'en 2003. Il faut bien se dire que 2025 ne sera pas la plus chaude, mais elle est, en comparaison avec le contexte de l'époque, une année particulièrement difficile sur le plan des températures.
Et forcément, la région Centre-Val de Loire n'est pas évitée par tout ça.
Non, bien sûr.
Quelles sont les perspectives à mettre en place pour que cette température puisse se réduire en termes locaux ?
Oui, se réduire, ça va être difficile maintenant. Il faut que dans la région Centre, on pratique l'adaptation en plus de l'atténuation. Donc atténuation, on essaie de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Adaptation, on essaie de s'arranger pour que les activités à différents niveaux, et notamment agricoles, ne soient pas trop impactées par le réchauffement global. Alors c'est vrai pour le maraîchage, c'est vrai pour les grandes céréales, c'est vrai pour l'utilisation de l'eau d'une manière générale, parce qu'en plus des températures, on a quand même des risques de sécheresse qui sont très importants, et on les a déjà vécus une bonne partie de ces 10 dernières années. On a des épisodes de sécheresse importants qui provoquent même des incendies dans les champs. Les agriculteurs sont très vigilants par rapport à tout ça, les sapeurs-pompiers aussi. Il y a des pré-positionnements en fonction des cultures qui sont à risque, parce que ça peut cramer très facilement quand la sécheresse s'exprime. Donc il va falloir s'arranger pour trouver des politiques d'adaptation qui seront donc en liaison avec ce qu'on va vivre. Donc au-delà des températures, des sécheresses aussi qui risquent d'être importantes.
Et comme quoi, par exemple, parce que c'est vrai qu'on sur ce territoire, on est très, on est très ancré dans une zone rurale, périurbaine, agricole. Donc forcément... Toutes les initiatives autour de ça sont très vastes, j'imagine.
Oui, oui. Alors il faut réfléchir à ce qu'on peut faire, à ce qu'on peut changer. C'est vrai pour la vigne aussi, qui est quand même importante dans la région. C'est vrai pour les céréales, pour le blé, pour le maïs. Est-ce qu'on peut remplacer tout ça avec beaucoup de consommation d'eau par des cultures qui seront moins gourmandes? Et là, la réflexion, elle est en cours. Il y a des expérimentations... sur l'agroforesterie, sur des nouveaux types d'agriculture qui sont moins consommateurs et plus adaptés à la chaleur. Mais on ne pourra pas faire non plus de miracle. Il faut essayer d'atténuer l'utilisation de tout, notamment de l'eau. Mais bon, ce n'est pas évident. Puis ça nécessite de gros changements dans la manière d'aborder l'agriculture aujourd'hui.
Qui en profite, qui en souffre de ces phénomènes météo et de changement climatique?
Alors, il y a un peu le paradoxe de l'industrie du tourisme, parce que là, en ce moment, ceux qui supportent le moins bien ces changements, c'est le tourisme d'hiver et donc le ski. Dans les stations situées dans les Vosges, dans le Massif central, dans le Jura, qui sont à 1500 mètres aujourd'hui, c'est compliqué de prévoir des stations complètes. Ça veut dire d'engager des intermittents, des gens qui sont là juste pour l'hiver, parce qu'on n'est pas sûr qu'il y ait de la neige. Et là, c'est vrai, dans plein de régions, on vient de les citer, il y a des stations qui ferment les unes après les autres parce qu'il n'y a plus de neige. Alors il y a des reconversions vers les stations qui s'occupent de printemps, d'été, avec notamment le vélo, le VTT et ces activités-là. Mais là, c'est compliqué pour beaucoup de stations. Et celles qui en profitent, elles ne sont pas énormes non plus.
On y pense aux Alpes, notamment,
bien sûr.
Après, c'est vrai que le plus proche,
elle récupère les clients qui étaient... destinées auparavant sur les Vosges, le Jura ou le Massif central, et elles en profitent. Mais bon, voilà, c'est encore un truc qui nous oblige à nous adapter et à changer et à anticiper l'avenir.
Prendre aussi un exemple, le Sri Lanka, notamment le cyclone d'Itwa, qui a impacté le pays en fin novembre et début décembre 2025.
C'est dramatique. On est en train de s'habituer à tout ça, ça ne nous étonne plus. Alors, on a très peu d'images diffusées, en tout cas sur les chaînes info, par exemple. Mais on en est au Sri Lanka, bien 3 semaines de précipitations hyper importantes, avec toutes les conséquences, inondations, glissements de terrain, destructions diverses et variées. Et entre les personnes décédées et les disparues, on est à plus de 1000 depuis quelques semaines. Et ça traduit aussi une adaptation au changement climatique qui n'a pas été anticipée dans les personnes disparues ou emportées où tu es, il y a des constructions de maisons au bord des rivières. Il y a des choses qui sont impossibles aujourd'hui de construire en ayant cette perspective de catastrophe potentielle. Et ça n'a pas été fait. Il n'y a eu aucune anticipation. Il y a des maisons entières qui ont été emportées par les eaux. Un peu comme on l'a eu aussi en France, hein, dans la Roya ou de la Tinée, au-dessus de Nice, il y a quelques années. Hein,
il n'y a pas longtemps.
Les ponts ont été emportés, les maisons ont été emportées. Il faut revoir tout le schéma d'adaptation et de construction dans ces zones à risque. Quoi.
Oui, c'est sûr.
Et on ne considère pas assez que ces zones sont à risque. Mais c'est compliqué, parce que quand on a un terrain et qu'on veut construire une maison, puis on dit non, il ne faut pas le faire... votre terrain il est trop dangereux, la maison elle vaut plus rien, quoi. Le terrain il vaut plus rien. Donc c'est difficile d'imposer des restrictions. Parce qu'il y a des propriétaires, il y a des résistances, il y a des gens qui ne veulent pas du tout limiter les constructions ou les installations au bord des rivières. Et là on le revoit aussi au Sri Lanka, mais comme c'est le cas parfois, dans la région ici, dans la région centre, on est un peu moins concerné.
Oui, on n'a pas. La dernière catastrophe, c'était la crue de la Loire en 2003. Donc
oui,
c'est
ça.
Pas
oui,
forcément...
oui. Oui, là c'est bon. Mais enfin, ça n'empêche pas de vérifier et de regarder bien les schémas de construction qui sont conformes aux négociations de précaution. Voilà, adaptons-nous. Cher Romuald, pas le choix.
Ouais, on sait que le Sri Lanka, depuis quelques décennies, a eu des périodes de catastrophes très importantes.
Ouais.
On se souvient aussi de ce tremblement de terre et de ce tsunami qui a fait une grosse impact, qui avait plus de 20 ans.
Oui, bon, il n'y a rien à voir.
Oui, voilà, il n'y a rien à voir, mais bon.
Mais il y a quand même des conséquences liées à l'aménagement, hein, je veux dire. Si le tsunami a fait autant de victimes, c'est aussi parce qu'on a changé le littoral. On a enlevé toutes les mangroves qui étaient justement là pour prévenir et pour atténuer le risque de tsunami, pour les remplacer par des plages, par des hôtels avec terrasses, etc. Dans l'importance des catastrophes, il y a le réchauffement, les précipitations plus importantes, mais il y a aussi les choix qui ont été faits sur l'aménagement de ces littoraux qui étaient à risque parce qu'on n'a pas tenu compte du tout des leçons du passé.
On va conclure cette chronique. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter, Jean-Louis, par rapport à tout ce qu'on a pu expliquer?
On peut dire que tous ces phénomènes, tout ce qu'on vient de parler, on le sait, on le confirme d'année après année, et que... Si on veut atténuer tout ça, il faut d'urgence s'ouvrir, et supprimer les énergies fossiles. Il faut arrêter le charbon, le gaz, le pétrole, mais on ne le fait pas en une année ni en 10 ans. C'est un mouvement qui est long parce qu'il y a derrière l'utilisation de ces fossiles beaucoup d'emplois, beaucoup de social, beaucoup de revenus, beaucoup d'organisation de la production, de la consommation, et c'est tout ça qu'il faut remettre en cause.
Et c'est tout un processus.
Ça fait beaucoup.
Oui, c'est sûr. Pour s'adapter dans les années à venir et notamment dans les normes d'aujourd'hui en termes d'écologie.
Oui. Quand on veut, on peut. Mais il faut vouloir et il n'y a pas assez de gens qui veulent.
C'est ça, c'est de la volonté avant tout.
Et on a les techniques pour le faire. Oui.
C'est vrai. Puis au fil des années, on y progresse, comme on dit.
Oui, pas assez vite.
C'est sûr. Bon, Jean-Louis, on va terminer cette chronique. Bon. La semaine prochaine sera, on va dire, un sujet un peu plus joyeux, j'imagine.
Oui, on va faire célébrer un Noël et un Nouvel An responsable. Comment on peut diminuer notre impact sur le climat, notamment, avec l'utilisation du CO2, comment on peut économiser dans les transports, dans la consommation. Et il faudra vous expliquer pourquoi il vaut mieux manger des huîtres.
de Bretagne.
Par exemple. Oui, pourquoi. Peu importe. Pourquoi? Parce que les huîtres, c'est quoi? Eh bien, la coquille, c'est du carbone. Pourquoi il faut protéger les océans et protéger la biodiversité, notamment dans ce niveau-là? Parce que dans l'organisation de cette biodiversité, chacun a son rôle. Et les huîtres, ça absorbe du carbone et ça rejette de l'oxygène. Et on en a besoin, absolument.
Eh bien, on va en parler la semaine prochaine.
Régalons-nous. Et en attendant, mangez des huîtres.
Allez, à la semaine prochaine pour votre toute nouvelle chronique
environnementale. Bonne semaine à tous.